Lecture au livre du prophète Ésaïe, à partir du chapitre 52. Voici que mon serviteur réussira. Il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. De même que les foules ont été horrifiées à son sujet, à ce point détruites, son apparence n'était plus celle d'un homme, et son aspect n'était plus celui des fils d'Adam. De même, à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées. Des rois vont rester bouche close, car ils voient ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils observent ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire? Le bras du Seigneur, en faveur de qui a-t-il été dévoilé? Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect, ni prestance, tel que nous le remarquions, ni apparence, tel que nous le recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous, nous l'estimions touché, frappé par Dieu, et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants. Nous nous tournions chacun vers son chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette. Lui n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération, qui se préoccupent d'eux? Oui, il a été retranché de la terre des vivants à cause de la révolte de son peuple. Le coup est sur lui. On a mis chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau. Bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y eût pas de fraude dans sa bouche. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur aboutira. Ayant payé de sa personne, il verra une descendance, il sera comblé de jours. Sitôt connu, juste, il dispensera la justice. Lui, mon serviteur, au profit des foules, du fait que lui-même supporte leur perversité. Dès lors, je lui taillerai sa part dans les foules, et c'est avec des myriades qu'il constituera sa part de butin. Puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'avec les pécheurs il s'est laissé recenser, puisqu'il a porté, lui, les fautes des foules, et que pour les pécheurs, il vient s'interposer.
Le chant des impropères met dans la bouche de Dieu la longue énumération de ses bienfaits et la réponse qui donne le peuple. Les reproches de Dieu raniment le douloureux refrain que dicte son amour. Peuple, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé?
Écoutez maintenant ce que m'a dit l'Éternel. Lève-toi, plaide pour moi devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez donc le procès de l'Éternel. Vous, montagnes, et vous, fondements inébranlables de la terre, car l'Éternel a un procès avec les siens, et il va plaider contre son peuple. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Ô mon peuple, réponds-moi.
Est-ce parce que je t'ai fait sortir d'Égypte, que je t'ai délivré de la servitude et que je t'ai conduit pendant 40 ans à travers le désert, que tu as préparé une croix à ton Sauveur? Est-ce parce que je t'ai nourri d'une manne céleste et que je t'ai donné en héritage un pays excellent, découlant de lait et de miel, que tu as dressé une croix pour ton Sauveur?
Qu'aurais-je dû faire pour toi et que je n'ai pas fait? Je t'ai planté moi-même comme la plus belle de mes vignes, et tu ne m'as rapporté que des fruits amers. Dans sa soif, tu as abreuvé de vinaigre ton Seigneur, et tu as percé d'une lance le flanc de ton Sauveur.
Par amour pour toi, j'ai frappé l'Égypte, et toi, tu as frappé de verge mon fils bien-aimé. Tu l'as livré à la mort. Je t'ai délivré de la main de tes oppresseurs. Et toi, tu l'as livré aux prêtres et aux principaux sacrificateurs. Je t'ai ouvert un passage dans la mer. Et toi, tu lui as ouvert le côté avec une lance.
J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée, et toi, tu as conduit ton sauveur au prétoire de Pilate. Je t'ai nourri de manne dans le désert, et toi, tu l'as meurtri de coups et de blessures. Je t'ai sauvé de la mort en faisant jaillir pour toi l'eau du rocher. Et toi, tu ne lui as donné pour se désaltérer que du fiel et du vinaigre.
Pour l'amour de toi, j'ai frappé à mort tes ennemis. Et toi, tu as frappé ton sauveur à la tête avec un roseau. Je t'ai investi du sceptre de la royauté. Et toi, tu as mis sur sa tête une couronne d'épines. Je t'ai souverainement élevé en déployant toute ma puissance. Et toi, tu l'as élevé sur un gibet d'ignominie.
Est-ce parce que tu as vu se manifester partout ma justice que tu as commis ce crime injuste? Pour laquelle de ces œuvres as-tu porté la main sur mon bien-aimé? Est-ce parce qu'il t'a guéri tes maladies, nourri tes pauvres, consolé tes affligés, purifié les lépreux et ressuscité tes morts que tu as crucifié ton Sauveur? Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je causé de la peine? Réponds-moi.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous
te bénissons, car par la puissance de ta croix, tu as racheté le monde. Amen.
Lecture de l'Évangile. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 19. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté, et au milieu, Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription : Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, bien des Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville. Et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : N'écris pas le roi des Juifs, mais bien cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux : Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira, en sorte que soit accomplie l'écriture : Ils se sont partagés mes vêtements, et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère,
la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite aux disciples, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé » et, inclinant la tête, il remit l'esprit. Cependant, comme c'était le jour de la préparation, les Juifs, de crainte que les corps ne restent en croix durant le sabbat, ce sabbat était un jour particulièrement solennel, demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. Les soldats vinrent donc. Ils brisèrent les jambes du premier, puis du second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ».
tout est accompli. Souffrir et contempler sont les deux verbes de la règle de ce jour. Et en cet instant, face à cette croix du Seigneur, ces deux verbes, souffrir et contempler, m'insupportent. Le supplice de cette exécution m'apparaît dans toute son obscénité. Cette colline du Golgotha, en forme de crâne, les trois croix plantées, et au beau milieu, la chair de ton corps clouée à même le bois. L'écriteau rédigé par Pilate en parodie de royauté, comme la couronne d'épines. Le sordide partage de tes vêtements et de ta tunique sans couture que les soldats jouent au dé, l'éponge vinaigrée que l'on plante sur une branche d'hysope quand toi tu meurs de soif, jusqu'à l'ultime coup de lance qui perce ton côté, le tout parfaitement empaqueté dans tout ce qu'il faut de versets bibliques, afin que selon les Écritures, tout soit accompli. Souffrir et contempler. En fait, je ne sais plus où poser mes yeux, tant la scène est pour moi insoutenable. Non pas parce que toute cette souffrance proposée à notre contemplation serait en elle-même la pire jamais contemplée. Franchement, il n'y a qu'à ouvrir un livre d'histoire, allumer la radio, la télé, les réseaux sociaux, pour découvrir chaque jour des morts peut-être plus révoltantes encore, des agonies plus longues, des injustices plus criantes, comme seule l'histoire des hommes en est capable. Mais précisément, c'est cela qui m'est insupportable. La répétition, la banalisation maladive de l'outrage, du déni d'humanité, cet abîme sans fond du toujours pire, dont l'humanité semble détenir l'odieux privilège. Je ne sais plus où regarder. Et c'est pour cela qu'un instant je vous propose non pas de vous attarder sur les plaies, les blessures infligées à Jésus, mais plutôt de contempler ce que le Christ en cette heure lui-même semble contempler. Là où il pose, où il repose son regard. Avant de rendre son dernier souffle, Jésus semble chercher des yeux ceux qu'il aime et qui l'ont aimé. Et beaucoup parmi ceux qui l'ont suivi, parmi ses proches, parmi tous ceux qu'il appelle amis, beaucoup se sont évaporés pour un temps, pour une nuit. L'un d'entre eux même, jurant dans la cour froide, près d'un brasero, face à une servante importune, n'avoir jamais connu Jésus. Mais même si la plupart de ses amis, même parmi les plus zélés, semble s'être momentanément évanoui dans la nature, il y a cependant encore près de lui, à portée de regard, debout, debout. Marie, sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala, et un disciple anonyme, le disciple bien-aimé. Ce que cherche Jésus en posant son regard sur cela, c'est encore et encore à prendre soin d'eux, en les invitant à créer de nouveaux liens, de nouvelles solidarités, pour que vive, s'étoffe, que s'approfondisse encore la communauté d'amour qu'il a suscitée. Femme, voici ton fils, et toi, voici ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Oui, jusqu'à son dernier souffle, Jésus cherche et réussit à bâtir une communauté d'amour afin que, oui, tout soit accompli. Aujourd'hui, en méditant ce grand mystère de la croix, je contemple Jésus contemplant toutes les mères qui se tiennent debout, debout jusqu'au bout, debout aux côtés de leur fils, debout aux côtés de leur fille. Je contemple ses sœurs et ses amis, ses bien-aimés qui voient mourir impuissants un proche. C'est sur elles, c'est sur eux que Jésus pose et repose son regard en cet instant. Et en le contemplant ainsi, nous pensons nous aussi fort à eux, en cet instant, en Ukraine, en Iran, au Liban, où qu'ils se trouvent. Le Christ est avec eux, le Christ pose son regard sur eux. Oui, cet après-midi-là, juste avant que le voile ne se déchire, Jésus a pu poser et reposer son regard sur Marie, sa mère, debout. La sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, et le disciple bien-aimé. Et aussi sans doute, par l'Esprit, il a posé aussi son regard sur tous les hommes, sur tous ces hommes parfois d'un âge avancé, qui, comme Nicodème le discret chercheur de la nuit, comme le sage Joseph d'Arimathée, vont dans quelques heures, respectueusement, chercher un corps sans vie, si jeune victime de la folie, de l'injustice, de la bêtise et de la haine. Ces hommes qui ne sont pas plus forts que vous et moi, mais qui font et qui feront leur possible pour porter dans leurs bras un corps sans vie, pour lui donner une dernière demeure digne et redire les prières et refaire les gestes de toujours. Parce que chaque vie est unique, chaque vie est irremplaçable, et que cela a du sens, même au beau milieu de la folie déshumanisante, de saluer chaque vie avec une considération infinie. Nicodème, Joseph d'Arimathée, à la fin de ce jour, n'imagineront pas qu'en déposant le corps du Seigneur, ils sont en train de semer au cœur de notre monde le grain de blé qui portera du fruit et soulèvera la terre. Comme le chante justement la liturgie maronite, tu t'es abaissé et tu nous as élevés. Tu t'es humilié et tu nous as honorés. Tu t'es fait pauvre et tu nous as enrichis. Tu montas sur un âne et tu nous as pris dans ton cortège. Tu fus conduit prisonnier chez le grand prêtre et tu nous as libérés. Tu gardas le silence et tu nous as instruits. Tu fus souffleté comme un esclave et tu nous as affranchis. Tu fus dépouillé de tes vêtements et tu nous as revêtus. Tu fus attaché à une colonne et tu as détaché nos liens. Tu fus crucifié et tu nous as sauvés. Tu goûtas le vinaigre et tu nous as abreuvés de douceur. Tu fus couronné d'épines et tu nous as fait roi. Tu mourus et tu nous as fait vivre. Bientôt, tu seras mis au tombeau, alors tu nous réveilleras. Amen.
N'y a-t-il pas comme une indécence, tandis que tu meurs, Seigneur Jésus, à venir dresser pour toi la liste de nos souffrances?
N'y a-t-il pas comme une indécence, tandis que tu vois mourir ton Fils, ô notre Père, à venir te faire la litanie de nos douleurs?
N'y a-t-il pas comme une indécence, tandis que se déchire le voile du temple, Esprit très saint, à attendre ta consolation sur toutes nos peines?
Et pourtant, parce que meurt le Fils, s'ouvre pour nous une brèche dans les ténèbres, s'élève un chant dans notre vacarme, se pose une espérance face à l'arrogance de l'insensé.
Ainsi, à l'heure de ta mort, en t'apportant le poids de nos douleurs, de nos luttes, de nos questions, de nos doutes et de nos incompréhensions,
nous choisissons la vie.
En t'apportant le poids de nos joies, de nos réussites, de nos espérances et de nos confiances, de nos amours aussi, nous choisissons la vie.
Croyons, Seigneur Jésus, que ton amour sauve le monde dans la lumière de ta croix. Les pays du sud, les pays du nord, les pays de l'ouest, les pays d'Océanie et les pays d'Orient.
Chaque région de notre terre, Seigneur, connaît ses misères et ses horreurs, cachées ou flagrantes, celles dont on parle, celles que l'on tait. Chaque région de notre terre connaît ses grandeurs et ses beautés aussi. Donne-nous, à la lumière de ta croix, d'espérer pour elle, de croire en l'avenir pour elle.
Seigneur, nous croyons que ton regard nous tient unis dans ton amour.
Apprends-nous cette interdépendance, ce sens aigu de l'autre. Délivre-nous de tous nos égoïsmes et autosuffisances, de nos vengeances et de nos convoitises.
Croyons, Seigneur Jésus, que ton amour sauve le monde dans la lumière de ta croix. Les enfants et les jeunes, les femmes et les hommes. Et tout spécialement, aujourd'hui, le petit Léonard qui subit en urgence une intervention au cerveau.
Chaque visage, Seigneur, a son histoire, sa part de bonheur et de souffrance. Souviens-toi de chacun, de celles et ceux dont la part de douleur se fait trop lourde, que ce soit par la maladie, les conditions économiques et politiques, la solitude, l'abandon, la violence ou toute autre chose qui accable et écrase.
Seigneur, nous croyons que ton regard se pose avec amour sur chacun, que tu ne te détournes pas de celui qui t'espère. Apprends-nous à aimer à ton image. Croyons, Seigneur Jésus, que ton amour sauve le monde dans la lumière de ta croix. les églises orthodoxes, l'Église catholique romaine, les églises de la Réforme, l'Église anglicane, les églises évangéliques, les églises de Pentecôte, toutes les assemblées et mouvements qui se réclament de toi.
Chacune, Seigneur, comme Marie-Madeleine au tombeau, a retenu avec bonheur quelque chose de toi, l'a gardé et l'a fait fructifier, mais a aussi voulu l'accaparer et ne pas reconnaître la part de ce bonheur que tu avais offert à d'autres. Délivre-nous tous, Seigneur, de nos suffisances et de nos certitudes exclusives. Nous croyons que ta prière au Père, afin que nous soyons un, est plus puissante que nos intelligences et qu'un jour nous en connaîtrons le sens.
Seigneur Jésus, les bras étendus sur la croix, tu saisis tout dans ton amour. C'est là la source de notre amour et de notre foi. Nous t'adorons.
Seigneur Jésus, tu as dit « Venez à moi, vous tous et toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Nous croyons que la croix est désormais pour nous et pour tout être humain, ce lieu refuge, ce lieu secours, ce lieu guérison, ce lieu source où nous pouvons tout déposer de nos fautes, de nos peines, de nos inquiétudes et recevoir comme à nouveau la force de vivre, le courage d'aimer, l'audace d'espérer. Nous avons placé sous vos sièges une pierre. Nous vous invitons maintenant à prendre un moment pour lui donner le poids, le contenu qui correspond à ce que vous voudriez aujourd'hui déposer, abandonner à l'amour de Dieu. Et puis, venir tranquillement la déposer au pied de la croix, comme l'on se décharge d'un sac trop lourd après une longue marche. Nous restons pour cela quelques instants en silence, et puis la musique nous accompagnera dans cette marche qui vient simplement déposer. Seigneur Jésus, tu nous as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu nous as appris à prier. Tout ce que nous avons déposé au pied de ta croix, ce que nous avons mis dans ces pierres, nous le croyons, tu l'accueilles et le recueilles. C'est pourquoi, dans la confiance, dans l'espérance et dans la joie que tu nous entends, nous répétons ensemble ces paroles que tu nous as laissées pour nous adresser à ton Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous voici au terme de cette heure que nous restions encore dans le silence de l'adoration, que nous rejoignions le quotidien de nos vies, nous recevons ces paroles que tu nous donnes comme un envoi. Cherche la croix, c'est le navire et c'est le port. C'est le jardin du paradis où tout fleurit. Lorsque tu vas, lorsque tu viens, ô, garde bien la croix au cœur.
Cherche la croix, c'est le navire et c'est le port, c'est le jardin du paradis où tout fleurit. Lorsque tu vas, lorsque tu viens, ô, garde bien la croix au cœur.
Cherche la croix, c'est le navire et c'est le port, c'est le jardin du paradis où tout fleurit. Lorsque tu vas, lorsque tu viens, Ô, garde bien la croix au cœur. Amen.